France Inter, le 18-20.
Au fond de lui, et on lui demandera, il se peut qu'il ait eu envie de ressembler à Pascal Brutal, un grand costaud, viril, baraqué, et comme il n'en est pas très loin, on va dire, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait un peu con, ce Pascal Brutal, voire totalement crétin, pour pouvoir prendre la comparaison, justement, mais c'est vrai aussi que le rapport à soi traverse l'Arabe du futur, et principalement cet épais quatrième tome qui vient de sortir, donc parce que les jolies boucles blondes, elles disparaissent, parce que l'adolescence, et ça, Riyad Satouf l'a beaucoup raconté au cours de ses livres, aux films antérieurs, l'adolescence, c'est jamais simple. Ici, et c'est ce qui rend ce quatrième volume de l'Arabe du futur, peut-être plus rude, peut-être plus mélancolique que les trois premiers, vous nous le direz. Ici, le jeune Riyad Satouf, moi je reconnais, ça m'a fait rire, expérimente les moqueries de ses amis en France, le rejet des cousins en Syrie aussi, avec les filles c'est pas toujours simple, le père prend un virage religieux assez vertigineux, la mère prend son indépendance, pardon, et tout ça quelque part entre les photos de Cindy Crawford et une coupe de cheveux comme celle de Tom Cruise qui n'est pas tout à fait réussie non plus. Le jeune Riyad Satouf pousse en même temps que sa chronique familiale devient grave et que l'auteur de BD devient aussi le meilleur vendeur, mais pas seulement, son Esther est aussi la meilleure amie de vos pré-ados. On est content de vous l'offrir, hein, ce Riyad Satouf, ce soir dans le téléphone sonne. Profitez-en, c'est notre gourmandise du jeudi.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Je vous salue, ça commence, Riyad Satouf. On est content que vous soyez notre gourmandise.
Et bonsoir, Fabienne Saint-Pès, merci.
Et c'est Rose qui est la première. Bonsoir, Rose.
Bonsoir.
Et on t'écoute, Rose. Quel âge as-tu d'abord ?
J'ai 12 ans.
Vas-y, on t'écoute.
Déjà, je voudrais vous dire, monsieur Riyad Satouf, j'aime beaucoup, beaucoup vraiment ce que vous faites. J'ai vraiment lu énormément de choses. J'ai lu les cahiers d'Esther, l'Arabe du futur et Retour au collège aussi. Enfin, j'ai vraiment aimé surtout l'Arabe du futur. Voilà, enfin. Et je trouve ça vraiment très, très bien décrit sur l'adolescence parce que, voilà. Donc en fait, j'avais deux questions. Vas-y. C'était la première. En fait, là, le tome 4, ils disent que c'est à suivre. Mais en fait, j'aimerais savoir jusqu'à où, enfin, quand ça se terminera. Est-ce que ça se termine à vos 18 ans ? Est-ce que ça va continuer sur toute votre vie ? Ou est-ce que c'est à la fin de vos études ? Enfin, je sais pas, voilà.
Bah attends, alors, chaque chose en son temps, Rose. Puisque tu as une deuxième question, j'ai pas oublié. Donc reste en ligne, évidemment. Riyad Satouf, vous nous laissez sur un moment comme ça à la fin du tome 4. Donc il y a forcément un 5.
Bonsoir Rose, bah oui, il va y avoir un 5 bien sûr, et c'est vrai que j'évite de dire quand est-ce que ça va se terminer, mais je peux te le dire quand même, je pense que ça va se terminer vers 2011-2012. Ah. Voilà, c'est une info.
Et pourquoi
que
donc 2011-2012?
Eh ben, en fait, c'est au début de la guerre civile syrienne.
D'accord.
Il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui m'a donné l'impulsion de faire ce livre parce que j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore en Syrie à venir se réfugier en France. Et j'ai eu beaucoup de difficultés alors à obtenir des autorisations en France. Et pour raconter ces difficultés, j'ai été obligé, je me suis dit qu'il fallait que je raconte l'histoire depuis le début et je me suis lancé dans cette série.
Donc ça veut dire que vous allez au-delà de le faire grandir, en fait, le jeune Riyad qui est vous-même dans l'Arabe du futur.
Ben, c'est vrai que depuis le départ, l'Arabe du futur, c'est pas uniquement une bande dessinée autobiographique parce que ce serait un peu ennuyeux si je racontais que ma vie. C'est aussi l'histoire de ma famille et surtout du rapport d'un garçon à son père et de ce qu'a fait son père et de comment on vit après avec un événement pareil, et comment on se construit, qu'est-ce que signifie avoir une identité double, etc. Donc c'est vrai que ma vie à moi n'est pas le centre de ce livre, qui est plus un voyage entre deux cultures.
Et alors, on va y revenir évidemment, je t'ai pas oublié Rose, mais c'est vrai qu'il y a des injonctions contradictoires de la part de votre famille syrienne, votre famille française, votre grand-père, votre père. Rose, ta deuxième question c'était quoi?
En fait c'était une question sur les couleurs.
Mmh.
Allô?
Ouais, ouais, non, vas-y.
Parce que, dans le livre, en fait, je trouve que les couleurs sont vraiment très bien accordées avec le moment. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a vraiment une scène qui veut être mise, pas en valeur, mais genre, quand il y a une chute, bien, ça passe au rouge, ou alors, je sais pas, il y a des fois comme des vagues de couleurs sur une case. Et je voudrais savoir si c'était vous, Riyad Satouf, ou si c'était juste quelqu'un qui colorait comme ça.
Je crois que Riyad ne laisse personne colorer comme ça.
Non, c'est vrai que voilà, merci pour cette question. Alors je suis très maniaque, donc c'est vrai que je fais l'histoire, le scénario, et le dessin, les couleurs, la maquette. Je vais chez l'imprimeur, je choisis le papier. Enfin, je suis complètement maniaque. Donc en effet, je suis le responsable des couleurs aussi. Et c'est vrai que moi j'ai une obsession quand quand je fais mes bandes dessinées, c'est d'essayer de faire des bandes dessinées accessibles aux gens qui ne lisent pas forcément de bandes dessinées, qui sont pas des spécialistes de bandes dessinées. Et quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de voyages, il y avait beaucoup de déplacements, il y avait beaucoup de pays différents, et qu'il allait falloir que je sépare bien toutes les parties pour que ce soit clair pour le lecteur. Et je me suis rendu compte que dans ma mémoire, la Libye, par exemple, avait une couleur très forte de soleil, il faisait très chaud tout le temps, donc j'ai donné le jaune. La Bretagne était très bleue à cause de la mer, du ciel un peu gris, donc j'ai mis une sorte de bleu-gris. La Syrie, c'était la terre, était pleine de fer, et c'était un peu rose, donc j'ai mis une couleur rose. Et comme l'histoire raconte aussi le nationalisme de mon père, son obsession pour la patrie, etc., je me suis autorisé dans chaque pays à utiliser les couleurs des drapeaux. Donc en Syrie, dans les parties syriennes, j'utilise en plus le rouge et le vert. En France, le rouge, et en Libye, seulement le vert. Et donc c'est vrai que je m'impose toujours des contraintes, parce que quand on a...
Il y a du bleu qu'en France, il y a du bleu carène, hein, il y a du bleu qu'en Bretagne.
Voilà, en Bretagne, ouais. Voilà, il y a du bleu dans le drapeau français. Il faut savoir que dans le Moyen-Orient, aucun pays n'a de bleu dans son drapeau, à part Israël.
Sauf Israël, oui. Voilà. On va parler à Augustin dans un instant. Vous l'avez un petit peu évoqué. Il y a quelque chose de plus... J'ai envie de dire plus sombre, c'est pas l'idée, parce qu'on rit aussi dans le tome 4 de l'Arabe du futur, de plus triste, de plus nostalgique en fait dans ce livre. Vous l'avez senti en le faisant ou au fond, parce que alors bon, par ailleurs vous nous parlez de l'adolescence, c'est pas toujours facile effectivement. Vous avez une coupe de cheveux, ça va pas du tout. Vous avez des boutons d'acné, etc. Enfin voilà, ça se passe pas toujours très bien, mais cette atmosphère là est plus lourde. Alors peut-être que c'est ce qui nous emmène à la chute, qu'on dira pas, mais beaucoup plus lourde que dans les trois premiers, non?
Oui. Oui, peut-être. Alors c'est vrai que dans les premiers volumes, j'ai commencé en étant une sorte d'être... Enfin, mon personnage était un être somptueux, extrêmement blond, avec une vaste coiffure à la Bardot. Tout le monde admirait ce personnage. Et c'était en effet le cas quand j'étais enfant. J'aime bien raconter le monde tel qu'il est vu quand on est une somptuosité vivante. Mais il est vrai que dans le volume 4, voilà, le corps change, c'est le cas pour tout le monde hein, dans la vie, mais c'est vrai que soudain le monde a changé aussi, c'est-à-dire j'étais plus le centre de toute chose, mais j'avais toujours l'impression d'être somptueusement beau, donc j'étais un peu hautain, un peu prétentieux, etc. Et donc forcément il y a les rapports aux autres, les rapports à l'extérieur évoluent beaucoup, et ça fait partie aussi de l'Arabe du futur. En fait, moi j'ai fait l'inverse du vilain petit canard qui devient un cygne. J'ai commencé comme étant un petit cygne somptueux, et je suis devenu un canard.
Vous faites du mal. Non, mais c'est... Augustin, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Augustin, bonsoir. On t'écoute.
Dans la famille, tout le monde adore l'Arabe du futur et les cahiers des terres. Est-ce que tu es déjà en train de commencer l'Arabe du futur tome 5 ou pas?
Merci Augustin.
Alors merci
au
Augustin.
Boulot, Riyad.
Alors, oui, et ben alors je suis à fond dessus, parce que c'est vrai que moi, même en tant que lecteur, je vis très mal quand j'aime un livre ou que j'ai envie de connaître la suite, ou même spectateur.
Ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait, je vous l'avais
dit. Et voilà, et on a envie de connaître la suite. Et là, maintenant, surtout avec ce volume 4, j'ai beaucoup de lecteurs qui attendent quand même la suite.
Mais alors justement, d'ailleurs, est-ce que ça veut dire du coup on laisse tout le reste entre parenthèses? Alors si les cahiers d'Esther, forcément, il y a toujours le nouvel obs, donc vous êtes obligé de la maintenir à flot, Esther.
Chaque semaine, oui, je fais une page chaque semaine.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup vous êtes tourné intégralement vers l'Arabe du futur désormais?
La bande dessinée, en fait, c'est ma passion, c'est ma vie. En fait, je fais ça depuis que j'ai toujours. J'adore dessiner tout le temps. Donc, c'est vrai qu'avec le temps qui passe et plus je vieillis, je suis devenu de plus en plus maniaque. Donc, j'ai envie de faire le livre le plus bel objet possible. Enfin, vraiment, je me perds dans des méandres de réflexion. Et donc, je fais ça toute la journée, tout le temps. Et je ne fais que l'Arabe du futur. Oui, c'est vrai. Et Esther, une fois par semaine.
Est-ce que vous comprenez pourquoi, là on entend les gens qui nous appellent, il y a beaucoup d'enfants mais pas que, est-ce que vous avez compris pourquoi il y avait eu un phénomène Arabe du futur, sincèrement? Qu'est-ce qui touche les gens au point d'en faire un succès énorme, hein? Enfin, vous êtes le meilleur vendeur et l'idée c'est pas de vous balancer des fleurs là-dessus, mais c'est vrai que ça marche vraiment très bien, tout le monde s'est identifié de tous âges, alors peut-être qu'il y a un rapport avec l'actualité aussi, qu'on ait envie de quelque chose de différent, qui parlait de Syrie, je sais pas, est-ce que vous l'identifiez comment ça vous?
Alors dans les librairies, c'est vrai que je rencontre beaucoup de lecteurs et je leur pose souvent la question de ce qu'ils font dans la vie, etc., pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu les toucher, et c'est difficile à dire, moi je dirais peut-être c'est le fait que ce soit une histoire familiale de deux cultures différentes et les gens ont envie de savoir comment ça va se terminer, comment vont évoluer les personnages et peut-être chacun ressent au fond de lui qu'il a été lui aussi un enfant somptueux à un moment et que la vie change et que certains continuent à être considérés comme des gens somptueux et d'autres un peu moins peut-être.
Et c'est marrant parce que vous avez quasiment inventé, alors pas tout seul, il y a une nouvelle génération, parce que c'est un peu le cas de Mathieu Sapin aussi par exemple, que vous connaissez évidemment bien. Vous faites de l'autofiction en BD, ça n'existait pas en fait avant cette manière de d'écrire qui était très littérature, enfin on sait ce que c'est que l'autofiction littérature, vous l'avez transposé en BD, est-ce que vous êtes quasiment le premier, je crois?
Non, il y a quand même une tradition quand même de récits autobiographiques qui remonte à y en a eu pas mal quand même, notamment en France avec les bandes dessinées publiées par l'association, ça existait aussi au Japon, ça existe aux États-Unis. Moi c'est vrai que dans ce type de bande dessinée justement d'auto-fiction, j'ai fait attention un petit peu avec ça parce que je voulais surtout parler de mon père et de son personnage très particulier, de nationaliste, moderniste, en même temps très brutal.
Qu'il est déchiré, votre père, c'est terrible.
Voilà.
En fait.
Et c'était il admirait Kadhafi, il admirait Saddam Hussein, il admirait Pinochet, par exemple, pour parler d'autres choses que de dictateurs arabes. Et ce qu'il aimait chez eux, c'est
comme un vrai point commun.
Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il aimait chez eux aussi, c'est que ils avaient fait progresser leur pays, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire Saddam Hussein,
c'est le panarabisme plus que le nationalisme finalement qui intéressait votre père.
Voilà, exactement. Ouais. C'est que Saddam Hussein, il a eu des prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation de son pays. Il avait donné le droit de vote aux femmes, mais il le faisait de manière effroyablement brutale. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de progrès et de violence en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui fascinait mon père, parce qu'il était comme ça.
Mais il est effrayant et touchant à la fois, votre père, en fait, parce qu'il tient des propos absolument épouvantables sur les Juifs, sur les Français. C'est une horreur. En même temps, ils vous aiment tous les trois, ils vous aiment vraiment, enfin ça se sent. Et puis surtout, on a bien compris qu'ils voulaient que vous réussissiez, que vous soyez quelqu'un et que ce soit pour votre bien. Comment est-ce que vous avez pu faire à un moment séparer le bon grain de l'ivraie à un moment? Enfin, je veux dire, quand vous êtes élevé en disant sur les horreurs que vous avez entendues sur les Juifs, par exemple, il faut savoir qu'il faut mettre ça de côté quand même à un moment.
C'est un chemin en fait, parce que c'est vrai que dans l'Arabe du futur au début, mon père tenait déjà des propos très antisémite, il était très antisémite de toute manière, très raciste aussi, il aimait pas les noirs, les Africains, il était plein de préjugés, mais il aimait pas plus les Français, et surtout il était aussi raciste avec d'autres peuples du Moyen-Orient, il avait des avis racistes sur les Marocains, les Algériens, et c'est vrai que de toute manière quand il essayait de m'expliquer ces choses-là ou de m'entraîner avec lui, moi j'ai toujours trouvé assez rapidement que ça ne résistait pas à la logique en fait, parce que personne n'est complètement par exemple quand il me parlait de il était obsédé par les Juifs à la télé, par exemple, c'est ce que j'raconte dans ce volume 4,
absolument.
Il m'expliquait que les Juifs contrôlaient les médias, mais quand il voulait me le prouver, la réalité montrait qu'il avait tort en fait.
Il y a une scène où il allume la télé, tient un chiche et boum, ça tombe sur je ne sais plus qui.
C'est Claude Sirillon et François Mitterrand.
Raté,
et voilà, en fait, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des doutes. On se rend compte que son père finalement n'est pas si fort, qu'on a honte de lui, qu'il dit des choses gênantes. C'est des réflexions qui se font dans la tête, que tout le monde peut.
Et on en passe tous par là pendant l'adolescence. Par ailleurs, on a tous rêvé d'être adoptés à un moment ou à un autre.
Non, mais c'est vrai que voilà, par exemple, mon père. Et lui, il me disait que les femmes étaient le diable et qu'il fallait surtout pas que je leur parle. Et d'un autre côté, j'avais mon grand-père français qui était ultra obsédé sexuel.
Les injonctions contradictoires, totalement.
Il disait vas-y, vas-y, vas-y. Donc je pouvais pas faire autrement que devenir dessinateur de BD avec un duo pareil. Donc c'est ce que je raconte dans cette série aussi.
Et on a bien vu effectivement que quand les photos de Cindy Crawford apparaissent sur le mur, ça rassure terriblement votre grand-père. Mais c'est marrant, non, c'est pas très drôle quand même. Il y a une espèce de frayeur de la part de votre grand-père, comme de votre père, que vous soyez gay, en fait.
Oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très tôt et qui est aussi que je veux partager avec les lecteurs dans ce livre, parce que je l'ai ressenti aussi quand j'ai fait les cahiers d'Esther. C'est l'homophobie des enfants est quelque chose d'incroyable, parce que j'avais une voix un peu efféminée, je l'ai toujours un petit peu. Je me suis toujours dit très tôt, si j'avais été homosexuel par exemple, que j'avais subi ça, c'est une horreur en fait. Et c'est quelque chose qui participe de la construction du genre, et comment on fait pour devenir un garçon respecté par les autres garçons. Pourquoi si on est un peu efféminé, on n'est pas forcément accepté par les filles aussi. Il y a tout un voilà, c'est de raconter la construction d'un individu et comment. Mais très tôt, j'ai été sensible à ça.
Allez, on fait monter la moyenne d'âge. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et on vous écoute Aurélie, allez-y.
Merci de prendre ma question. Monsieur Satouf, c'est-à-dire que je suis dans la lecture du quatrième tome et hier soir, j'étais assez bouleversée, en fait, car je suis moi-même maman de deux petits garçons, en fait, et je me disais, mais oh là là, mais tout ce qui se passe dans l'école, là-bas, en fait, je me demandais si votre maman a appris tout ce qui se passait à l'école, bah, notamment à l'école syrienne, par votre voix ou par la voix de la BD, en fait.
Merci pour votre question. Alors oui, je vais vous répondre. En effet, ma mère a lu le livre et je crois qu'elle a un peu appris quand même par la BD. Et le deuxième volume de l'Arabe du futur où je raconte ma première année d'école en Syrie où les profs nous tapaient, etc.
Dessus, ouais.
En effet, ça l'avait. C'est peut-être le volume qui l'a plus marqué de tous parce que elle se rendait pas compte de la chose. Mais elle m'a dit oh, mais de toute manière, c'est bien que ce soit passé parce que maintenant tu t'en es sorti et c'est bien. T'es devenu quelqu'un de bien, mais c'est vrai cette violence l'avait beaucoup beaucoup marqué. Mais c'est très souvent que en dédicace, par exemple, je rencontre des personnes âgées, un peu âgées, qui viennent me voir, des Français, mm-hmm. qui me disent, mais vous savez, moi, quand j'étais à mon école communale, mon maître, il me tapait dessus, c'était avant mai 68, il n'y avait pas de filles dans mon école, il nous donnait des gifles, des trucs comme ça, c'était pareil, mon école était comme la vôtre en Syrie, et tout. Alors, c'est vrai qu'on a oublié ça, mais c'est pas pour excuser ce qui se passe en Syrie,
mais bon.
Il y a peu de temps ici, c'était un peu la même chose aussi, quand même.
Gaspard, on t'écoute Gaspard, vas-y.
Allô ?
Salut Gaspard.
Je voulais savoir, j'ai lu les cahiers d'Esther, l'Arabe du futur, j'ai vu Jackie au Royaume des filles, et je voulais savoir,
pardon.
À un moment, dans le tome 2, je crois, à l'école, il y a deux camarades d'école, et il y en a un peu plus petit qui tousse, et à un moment, on dit, il disparaît, il vient plus à l'école. Et donc, je voulais savoir ça, et aussi, est-ce que vous, des fois, votre père, il vous forçait à lire le Coran et tout ça? Et est-ce que vous parlez encore l'arabe maintenant ou pas?
Alors, une question après l'autre, d'abord.
Merci pour toutes ces questions. Oui, c'est vrai, c'est dans le second
le
volume, j'avais deux copains, et j'avais un copain, en effet, qu'un jour n'est plus venu à l'école, et on n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Et alors, c'est vrai que j'ai pas de théorie, je sais pas, est-ce qu'il est... Je sais pas. Donc je l'ai partagé avec les lecteurs et c'est quelque chose qui inquiète aussi pas
c'est
mal.
C'est marrant
de...
que ça marque les enfants comme Gaspard qui a 11 ans.
Et c'est vrai, ça s'était passé comme ça.
Et le syrien alors?
Eh ben je dis toujours la même chose, ça veut dire je parle pas arabe.
D'accord.
Mais j'ai un peu perdu. Alors c'est marrant parce que avec l'arabe du futur, quand je vais dans les librairies, je vois souvent des Syriens d'ailleurs, des Libanais qui viennent me parler arabe et la langue me revient. J'aimerais bien reprendre des cours, mais hélas je ne le parle plus.
Vous l'avez perdu assez vite, hein. Vous le perdez dans le tome 4, si je puis dire. Vous le perdez, et en même temps, il y a ces scènes qui sont finalement assez caractéristiques d'un enfant qui vient d'ailleurs. C'est votre ami skater qui vous dit « Non mais toi, t'es français, t'as juste un nom arabe, en fait, donc t'es pas vraiment un arabe. » Mais vous, au fond, est-ce que vous savez ce que vous êtes à ce moment-là ?
Non, pas du tout, et c'est vrai que cette question de l'identité des origines, c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie, de par le fait déjà que je m'appelle Riyad Satouf, qui n'est pas forcément un nom tout de suite à consonance arabe.
Riyad Satouf.
C'est plus un nom blague déjà au début. Alors ensuite, quand on s'intéresse, on comprend que Riyad, c'est un prénom oriental. Mais ça a toujours été un sujet. Je me rappelle, juste avant de faire l'Arabe du futur, j'avais discuté avec un acteur français, dont je tairai le nom, mais qui était d'origine, je crois que c'était algérienne. Il m'avait dit, mais toi, t'es de quelle origine, Riyad Satouf? C'est quoi et tout? Alors je lui ai dit, je suis à moitié syrien et tout. Mais t'es pas arabe, toi. T'es un français, en fait. Alors que lui-même avait grandi en France, était né en France. En fait, j'étais 1500 millions de fois plus arabe que lui, puisque j'avais vécu là-bas. Et tous ces rapports à l'identité, c'est beaucoup moins évident que ce qu'on veut croire. Il suffit pas d'avoir des origines ou d'avoir l'air ou d'avoir un accent ou d'avoir c'est aussi tous ces thèmes-là que je veux aborder dans l'Arabe du futur pour montrer que c'est plus compliqué que ça.
Est-ce que vous avez eu envie d'ailleurs de le réapprendre, l'arabe syrien?
Mais bien sûr, complètement. Mais le fait est, c'est que je n'ai jamais eu le temps et qu'à l'adolescence, ma mère m'avait dit tu veux prendre des cours de guitare ou des cours d'arabe? J'avais dit guitare, bien sûr.
Bah oui, évidemment.
Donc, mais là, j'aimerais bien reprendre des cours d'arabe parce que la prononciation, ça, c'est une langue magnifique et qui est très, très, très belle. Et je me rappelle très bien, enfant, quand je parlais arabe, j'avais le sentiment d'être connecté à autre chose que quand je parlais français. C'était une autre façon d'envisager le monde. Même la manière dont la voix change, les prononciations, ça amène un autre rapport au réel. Je sais pas comment je peux dire autrement.
Bonsoir Alexandre. Alexandre.
Allô?
Oui, on vous entend Alexandre, bienvenue.
Voilà. Alors, je suis Alexandre, je représente pour les vieux maintenant.
Ouais, c'est voilà. Bien. Merci d'être dans notre club aussi.
Je suis un peu ému parce que je suis un grand fan de Riyad Satouf. Je suis très honoré de pouvoir échanger un peu avec vous. Et en fait, moi, je suis originaire de Bretagne. J'ai découvert Riyad Satouf dans Fluide Glacial avec Pascal Brutal. Et puis ensuite, séduit par l'humour, j'ai creusé le sujet et j'ai commencé à acquérir tous les livres, La vie secrète des jeunes, etc., jusqu'à L'Arabe du futur. Et puis moi, ce qui me touche, c'est la justesse en fait de Riyad. Oui, excuse-moi, ma chérie.
Donnez-lui les cahiers d'Esther qui se calment.
Oui, les cahiers d'Esther aussi. Et en fait, moi, au début, j'ai connu Riyad par le côté humour. Et puis donc, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments autobiographiques dans Pascal Brutal. Mais après, donc, on creuse, on va plus loin. Et puis, je trouve que c'est très juste. Et j'ai commencé le tome 4 de L'Arabe du futur quand il décrit les crêpes, la galette de sa maman dans la bouche, des choses comme ça, des petits trucs. Moi, je suis... c'est super. C'est super. Riyad, t'es le meilleur.
Ah, merci Alexandre.
formidable. Hein. Alexandre, vous avez bien fait de venir embrasser votre petit, qui n'a pas encore l'âge de ce que j'entends de lire les cahiers d'Esther, mais ça ne devrait pas tarder ici.
Les cahiers d'Esther de côté, et puis je sais que ça lui fera beaucoup plaisir. Ouais.
Merci en tout cas. Merci vraiment de cet appel, Alexandre. Bonjour May, à moins que je prononce pas bien ton prénom.
Non, c'est bien.
Ah c'est super.
Bonjour.
Salut.
Je m'appelle May, j'ai 9 ans, et je voudrais poser comme question... Est-ce que ça a choqué Riyad Satouf quand votre père il a brûlé les pieds de votre mère?
Alors il y a cette scène.
C'est un spoiler. oui. Enfin, disons que c'est une scène qu'on n'oublie pas. Voilà.
Ça se passe en Syrie. Hein, c'est quand Syrie, pendant l'un des allers-retours. Ouais.
Exactement. Parce que ma mère a rigolé d'une chose qu'a dit mon père et donc il a attrapé son pied, il l'a brûlé avec une allumette qu'il avait allumée. C'est vrai que ça fait partie des scènes qu'on n'oublie jamais et qui participent du secret que je raconte dans L'Arabe du futur, de ce secret familial qui a été l'élément déclencheur aussi de raconter cette série, parce que toute cette période-là, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu partager avec quiconque, même dans la vie.
Avec votre mère, par exemple, vous en avez déjà parlé ou pas?
C'est très compliqué de parler de ça avec sa famille. Quand on grandit, on se renferme sur soi, le nombre d'ados qui ne veulent pas parler à leurs parents. Moi, j'étais exactement comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir cet écho des autres qui partagent cette histoire, j'ai fait une rencontre dans une librairie il y a quelques temps, il y avait vraiment plein de gens, et chaque personne connaissait ma famille. C'est vrai que dans ces années-là, je raconte aussi dans le livre, on a été assez seuls en fait. Et le fait aujourd'hui de pouvoir partager avec autant de lecteurs, c'est un soulagement énorme.
Même au Cap-Réel, vous êtes assez seul finalement, France avec vos grands-parents.
Mais c'est vrai que c'est aussi une histoire un peu de la solitude de ce livre. C'est ma grand-mère bretonne était très seule, chaque personne essayait de vivre avec son histoire et d'essayer d'être un peu heureux, etc. Enfin, c'était comme ça.
Et votre mère, en même temps, dont parlait May à l'instant, elle se rebelle quand même dans ce tome-là. Elle est beaucoup plus, on la sent beaucoup plus présente. elle est moins dans les trois premiers, elle le suit. Alors même si elle a pas du tout envie d'être en Libye, en Syrie, etc., elle suit. Elle y va. Là, elle est quand même, elle est de moins en moins soumise. Elle gueule beaucoup. Elle l'engueule beaucoup. Votre père, ça se passe mal. Elle est malade, notamment à un moment, elle va pas trop se polier. Mais enfin, on voit donc qu'il y a une vraie force derrière cette femme qu'on n'avait pas forcément capté dans les trois premiers, en fait.
De toute manière, c'était aussi le projet du livre, c'est que là, la polarité va s'inverser un petit peu, c'est que dans les livres, moi je raconte aussi l'histoire d'un père qui rêvait de devenir milliardaire, et à force de le raconter à sa famille, tout le monde finissait par y croire, et ma mère en premier, ça aurait pu être possible qu'il devienne ministre en Syrie, ou je sais pas, c'est des types de destins qui sont déjà passés, mais là, en effet, dans ce quatrième volume, mon père a accepté un poste de professeur à l'université de Riyad en Arabie Saoudite, et ma mère n'a pas voulu le suivre parce qu'elle avait lu un article qui expliquait que l'Arabie Saoudite était le pire pays du monde. Et donc, c'était pas possible que les femmes n'avaient pas le droit de, qu'avaient pas le droit de sortir, que c'était.
Mais elle avait raison,
elle
par ailleurs.
Elle avait raison. Ouais. C'est, oui, tout à fait. Et voilà, mon père est parti travailler là-bas. Il a changé peu à peu, par la solitude, par le fait qu'il était loin de sa famille, etc.
Et on le voit, alors pareil, on va pas spoiler, mais l'évolution de votre père, on la sent, mais c'est la colère de votre père qu'on voit aussi, qui commence à prendre des proportions plus importantes, en fait.
Mais c'est vrai, parce que souvent, alors, bon, moi, à mon niveau, je raconte que mon histoire personnelle. Mon père a fait un retour à la religion, il est devenu de plus en plus religieux. Je voulais aussi raconter que c'était pas un phénomène, comment dire, magique, qui peut toucher les gens comme ça, ou que n'importe qui. Il y a quand même une histoire psychologique derrière. Il y a un destin, comment dire, il y a des événements de vie qui ont été une frustration, une impuissance. Mm-hmm. C'est aussi une évolution d'une psyché, en fait, qui mène à ça.
C'est lié aux événements politiques, en fait, la première guerre du Golfe, voilà. Notamment, qui est l'échec, évidemment, de Saddam Hussein, auquel vos pères, lui, croyaient mordicus.
Tout à fait.
Et il y a eu, d'ailleurs, dans ce pays, un retour à la religion à ce moment-là, voulu par Saddam Hussein pour des raisons qui ne sont pas simplement des raisons religieuses, mais il embrasse aussi pays-là, votre père, dans sa manière d'aborder la religion.
Oui, de toute façon, Saddam Hussein était l'idole absolue de mon père, parce qu'il était sunnite, déjà, et qu'il avait un peu le même parcours que lui, c'est-à-dire qu'il venait d'un petit village misérable, où il avait été maltraité par les enfants du village. Grâce à l'école et à son oncle, Saddam Hussein avait eu accès à l'éducation, et ensuite, il avait fait un coup d'État, et il était devenu président. C'était l'idole de mon père. Il voulait faire tout comme lui. D'ailleurs, il nous avait avoué que tous les ans, il envoyait une lettre à l'université de Bagdad pour essayer de devenir professeur, et qu'il n'avait jamais été retenu. Et quand l'invasion du Koweït a eu lieu, mon père trouvait que c'était le plus grand acte de politique étrangère jamais fait. Donc voilà.
Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Allez-y Olivier. Je ne donne pas votre âge donc vous, hein, on est d'accord.
J'ai monté le niveau de l'âge.
D'accord, ah, tricheur. Ouais. Allez-y.
Donc, on est 43 ans. Ma mère m'a offert le coffret des trois premiers tomes de l'Arabe du futur, que j'ai dévoré en quelques jours. Et j'ai couru acheter le quatrième tome que je suis en train de lire. C'est pas fini.
Et donc, je vous raconte pas la fin.
D'accord, voilà, pas de spoil, comme on dit.
Non.
Donc, je connaissais déjà les œuvres de Riyad. Le Pascal Brutal, l'Enfuite glaciale, je connaissais les beaux gosses, Jacques Hitt, et là j'ai vraiment apprécié dans ce livre l'intelligence du récit, et j'ai retrouvé les émotions que je pouvais avoir étant môme en lisant du Pagnol, La gloire de mon père, le château de ma mère, et les adaptations au cinéma. Donc la jeunesse, l'image du père racontée par un gamin, quoi. J'ai trouvé ça fort.
Merci Olivier. Riyad Satouf, quand on est comparé à Pagnol, je pense que c'est bon, ça va peut-être aller.
Non, mais ça me touche beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai fait des bandes dessinées pendant 20 ans, et c'est vrai que pendant 15 ans, j'avais peu de lecteurs, j'en avais, mais c'était et avec l'Arabe du futur, ça a été un changement vraiment complet. Je sais pas, c'est vrai que les gens se reconnaissent dans cette histoire de manière parfois stupéfiante. Il y a pas longtemps, j'étais au Brésil et un lecteur brésilien m'expliquait que ça lui avait rappelé son enfance à Rio, où il jouait avec des enfants qui étaient dans un quartier plus pauvre. Il essayait de se faire accepter d'eux et il n'arrivait pas à le faire, mais il rêvait d'être comme eux, il rêvait c'est vrai que c'est des choses qu'on ne mesure pas quand on écrit une histoire, de pouvoir trouver écho dans la vie des gens. Comme ça.
Tiens, Sybille nous écrit sur franceinter.fr. Je venais juste vous dire que j'ai lu beaucoup de vos romans graphiques. Je crois que ça a vraiment un impact sur moi. J'ai commencé à lire l'Arabe du futur quand j'avais 10 ans. J'en ai 14 aujourd'hui. J'ai suivi toute l'histoire et ça m'a tellement plu que lorsque j'ai terminé le quatrième tome, j'ai pleuré pendant plus de 20 minutes. Je tenais à vous dire que c'est vraiment bouleversant et rien que d'y penser, j'ai encore envie de pleurer. Bah, j'espère qu'elle va mieux.
Sybille,
quand même. Alors, je vais quand même vous donner la question de Daniel, mais vous n'allez pas y répondre parce que Daniel a besoin, comme elle a été frappée elle aussi par la fin du tome 4, elle a besoin de savoir ce qui va se passer derrière, parce qu'elle ne veut pas attendre le tome 5. Donc voilà, ça vous avez le droit de ne pas répondre.
Daniel, non, il faut attendre.
Est-ce que vous êtes dans le collimateur des extrémistes, nous demande Étienne.
Alors franchement, non. Avec l'Arabe du futur, j'ai un taux de satisfaction des lecteurs des scores un peu de dictateur. J'ai très peu de lettres d'insultes ou de choses comme ça. De temps en temps, j'ai un type qui m'écrit pour m'insulter, mais c'est très 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 rare. Non, franchement non.
Bonjour, j'ai revu Attendez ça. J'ai revu Jackie au Royaume des Filles. C'est Perrine qui nous dit ça. Je ne veux pas être désagréable avec vous, mais avoir vu déjà Jackie au Royaume des Filles, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, revu, Perrine, bravo. Je sais que le film n'a pas eu le succès escompté à sa sortie, mais je suis toujours aussi fan de cet ovni qui est drôle et intelligent. Je crois savoir que Riyad Sattouf a été un peu échaudé par ce demi-échec. Est-ce qu'il va se remettre à l'écriture d'un film? Ce serait vraiment une bonne nouvelle. Et elle ajoute, je suis persuadée que Jackie au Royaume des Filles deviendra culte dans quelques années.
Oh là là, c'est adorable. Mais c'est vrai que voilà, c'était mon second film. Mon premier film était Les Beaux Gosses et avait eu beaucoup de succès. Le deuxième, c'était Jackie et ça a été un four. Mmh. Et c'est aussi cet échec-là qui m'a permis de me lancer dans l'Arab du futur parce que plus personne ne m'appelait et j'avais plus vraiment de copains. Il y a eu un calme plat à ce moment-là. Et c'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose que j'ai pu faire grâce aux bandes dessinées parce que des producteurs m'ont appelé pour me permettre m'aider à faire ça parce qu'ils aimaient mon univers. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup refaire un film, mais la bande dessinée occupe tout mon temps.
Marrant comme il y a un lien quand même entre la bande dessinée et le cinéma. On parlait de Mathieu Sapin tout à l'heure, Johannes Farr, c'est pareil. On a l'impression que quand on écrit des bulles, la suite logique, c'est le cinéma.
Alors moi, je dirais pas que c'est une suite logique parce que pour moi, la suite logique, c'est de continuer à faire des bandes dessinées. Mais c'est
aussi
vrai que raconter des histoires en images, y a de nombreux points communs entre le cinéma et la bande dessinée. Après, c'est pas du tout pareil dans la direction des acteurs, etc. Mais je crois aussi que c'est parce que peut-être il y a des bandes dessinées modernes qui maintenant abordent des sujets qui n'étaient pas forcément abordés avant. C'est beaucoup plus simple de faire, simple entre guillemets, financièrement, disons pour des producteurs, de faire un film avec des ados qui vivent des aventures dans un collège que de reconstituer des planètes de science-fiction, etc.
Donc, d'ailleurs, est-ce que ça se met en cinéma, l'Arabe du futur? Vous y songez déjà ou pas?
Alors moi, je voudrais finir l'histoire avant, mais j'ai eu beaucoup de propositions et même d'Hollywood. C'est justement les trucs que j'accepterais pas forcément, mais
vous allez le faire vous-même. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez tout contrôler,
donc voilà. Tout seul, voilà, ça, c'est vrai.
Mais c'est pas grave, faites-le vous-même, ce sera formidable. Lucia, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Lucia, désolée, bonsoir, t'as Lucien. Beaucoup attendu et on t'écoute.
Ça concernait les cahiers d'Esther. Je voulais savoir comment, quand elle fait des bêtises et que son père les lit dans les BD ou ses parents, comment ils réagissent,
Et c'est une sacrée bonne question, Lucia.
C'est une très, très bonne
question. Est-ce que vous lui faites faire des choses dont les parents ne sont pas au courant?
Alors, c'est vrai que les cahiers d'Esther, c'est fait d'après les histoires d'une vraie jeune fille qui me raconte sa vie. Alors, je change pas mal de choses pour la cacher dans la réalité. Et en général, quand elle fait des grosses bêtises et que ses parents ne sont pas au courant, c'est parce qu'en fait, ils ont été au courant après. Et je mets en scène le fait qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est vrai que le principe aussi des cahiers d'Esther, c'est qu'elle me raconte ce qu'elle veut me raconter. Je vais jamais la pousser à me raconter des choses trop graves ou trop intimes, etc. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les... Et souvent,
vous la freinez des fois ou pas?
Pas vraiment, mais avec le début de l'adolescence, parce que maintenant elle a 13 ans, elle commence un peu à s'opposer à ses parents, elle les trouve relous pour plein de sujets, etc. Donc ça va commencer à être un peu intéressant de raconter des conflits, certains conflits.
Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne Catherine. Bonsoir.
Oui, alors moi je voulais parler en tant que parent relou en fait.
C'est pas grave.
Surtout pour témoigner du fait que voilà de l'impact que peut avoir un film comme Les Beaux Gosses. Parce que moi j'ai un fils qui est adolescent maintenant et qui est un fan intégral du film et qui a aussi la particularité d'être autiste, voilà. Donc moi mon fils autiste qui est devenu ado, il s'est totalement calqué sur Hervé et toutes ses répliques. Donc, je remercie à moitié en fait. Je connais beaucoup de choses par cœur, voilà. Mais je suis aussi une lectrice de l'Arabe du futur et j'aime beaucoup, voilà.
Faut lui faire regarder Jackie au Royaume des Filles. Du coup, votre fils, comme ça, il y aura d'autres répliques. Ce sera terrible pour vous, mais ça va changer un peu.
On va étoffer la culture cinématographique, là, je sens. Oui.
Mais c'est drôle parce que
Catherine.
Merci beaucoup. Je me suis rendu compte récemment qu'il y a maintenant, en fait, le temps a passé et qu'il y a des jeunes enfants qui ont vu, par exemple, Les Beaux Gosses ou qui ont lu mes bandes dessinées, qui maintenant sont devenus des adultes. Et je me suis pas du tout rendu compte du temps qui passe. Et je vois souvent des grands mecs qui viennent me voir et me disent « Bonjour, en fait, je lisais vos BD quand j'étais gamin et ça va. » Et en fait, c'est vrai que c'est assez vertigineux.
Ça fait un peu mal.
Ça fait très, très, très mal. Mais aussi, ça fait partie du jeu quand même.
Bon, c'est vrai que ça existe chez nous. C'est ma mère adore ce que vous faites. Ok, très bien. Bonsoir Thierry.
Bonsoir madame.
On vous écoute.
Bonsoir.
Thierry.
Bonsoir monsieur Satouf. Comment est perçu votre exceptionnel travail dans la communauté arabe en général, au Moyen-Orient en particulier, et encore plus particulièrement dans ce merveilleux pays qu'est la Syrie?
Merci pour votre question. Alors, en général, c'est difficile de répondre parce que l'arabe du futur n'est pas encore traduit en arabe. Pour une raison simple, c'est que je voudrais que la bande dessinée soit terminée pour que ça soit traduit. Parce que les éditeurs qui se sont proposés pour le traduire en arabe ne s'engageaient que sur le premier volume. Mmh. Et je voulais pas que la langue arabe n'ait qu'une partie de l'histoire. Je veux qu'elle l'ait en entier. Et ensuite, c'est vrai que j'ai énormément de messages qui viennent du Moyen-Orient, de lecteurs qui le lisent en français ou en anglais. Et dans 90% des cas, c'est très positif parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une catégorie de population qui se reconnaît beaucoup dans ce livre, c'est les personnes de double culture, les franco-algériens, les franco-marocains, les franco-libanais, etc. Des gens qui allaient là-bas en vacances, qui vivaient peut-être en France, etc. Et ils me disent tout le temps, ah, ça me rappelle mon oncle était pareil, mon père, et c'est la même chose, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de messages comme ça. J'ai très peu de gens vraiment choqués par ce que je peux raconter. Alors, la plupart des gens qui peuvent être choqués, j'en ai eu quelques-uns, c'est pour vous répondre avant que vous me posiez la question.
Allez-y.
Ce sont surtout des gens qui ont lu le premier volume ou qui se sont arrêtés en cours de route, et ce sont rarement des gens d'origine arabe. Ou...
Et les Syriens particulièrement, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'est ceux qui peuvent le lire en français, en anglais, hein,
mais... ceux que j'ai rencontrés aiment le livre, ça c'est sûr. Mmh. J'ai vraiment... Alors, il y a, c'est toute une catégorie particulière, parce que c'est vrai que les Syriens qui vont pouvoir habiter en France sont quand même des Syriens des classes un peu aisées.
Bien sûr, ouais.
Voilà.
Et qui vous ont demandé d'ailleurs, justement, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction de ce téléphone sonne, que vous iriez probablement jusqu'à 2011-2012, donc le démarrage du conflit. Est-ce que ces gens-là, précisément, vous posent beaucoup de questions là-dessus, sur cet après-là, sur cet après-adolescent, sur les allers-retours en Syrie?
Non, pas du tout. Puis c'est vrai que je veux pas du tout me présenter comme le Syrien, le représentant de la Syrie.
Vous n'êtes pas l'appartement témoin de la Syrie.
Non, pas du tout. Moi, je raconte une histoire intime qui se passait dans un petit village à travers mon point de vue, et je laisse les lecteurs se faire leur avis. Bon,
allez, vous êtes le dernier, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Ah ben, vous êtes parti. Est-ce qu'il est parti, Nicolas? J'ai l'impression que Nicolas est parti. Eh ben, écoutez, non, on me dit que la ligne est mauvaise, mais c'est pas grave. De toute façon, il nous reste qu'une poignée de secondes, comme ça, on sera pas en retard. Ce qui est exceptionnel. Merci mille fois, Riyad Satouf.
C'est
un vrai bonheur. Et évidemment, vous revenez quand vous voulez, très rapidement, avec le 5, parce que moi aussi, ça m'a laissé genre, un peu comme ça. C'est toujours publié chez Alary Édition. C'est un gros morceau, cette fois-ci. Je le dis, on aura l'occasion d'y revenir, que vous êtes exposé à la BPI. C'est un sacré truc pour un dessinateur, j'imagine. Ça commence en novembre, ça se finit au mois de mars. On pourra voir vos planches, j'imagine, des choses inédites. Et puis aussi au mois de novembre, on en reparlera. Vous êtes au Salon du Livre de Radio France. On sera content de se retrouver pour cette occasion. Merci mille fois et portez-vous bien.
Merci beaucoup.